Laudetur Jesus Christus.
Les sans-abris américains risquent-ils d'être criminalisés car ils dorment dans la rue? Réponse attendue dans les heures ou dans les jours qui viennent de la Cour suprême des États-Unis. Nous verrons l'inquiétude du président national de la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui vient en aide au SDF. Le président argentin voit son premier plan de réformes économiques approuvé par le Parlement après plusieurs mois de tractations. Javier Milei se voit donner une chance d'appliquer son programme radical. Tension ravivée entre la Russie et l'OTAN à cause du survol par des drones américains de la mer Noire. Moscou menace de prendre des mesures de rétorsion. Puis en Mauritanie, premier tour de la présidentielle ce week-end. Le président sortant est largement favori de ce scrutin. L'opposition craint, elle, des fraudes électorales.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Joe Biden, de nouveau reparti en campagne en Caroline du Nord. Pas question pour le président américain d'abandonner la course à la Maison-Blanche alors que de plus en plus de démocrates, des proches et des alliés se demandent ouvertement s'il est en mesure de briguer un second mandat. Les critiques et les appels à son retrait se sont en effet multipliés ces dernières heures aux États-Unis après sa prestation lors du duel télévisé hier soir avec Donald Trump. Autre question que les Américains se posent. Peut-on punir d'amende ou de peine de prison les personnes pauvres contraintes de dormir dans la rue? Il pourrait bien avoir la réponse dans les heures ou les jours qui viennent, puisque la Cour suprême doit se prononcer sur le cas Grants Pass contre Johnson. Grants Pass, c'est le nom d'une petite ville de l'Oregon qui avait pris une ordonnance criminalisant les sans-abri, une mesure qui avait suscité notamment la réprobation de l'Église catholique et de ses œuvres de charité. Que se passerait-il donc si les 9 juges décidaient de donner raison à la commune? Réponse de John Berry. Il est le président national de la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui vient en aide au SDF.
Si la Cour suprême maintient les arrêts Grants Pass qui criminalisent les sans-abri, ces derniers seront obligés de se déplacer, ce qui entraînera des difficultés supplémentaires pour les servir. Les organisations d'église auront beaucoup plus de mal à s'acquitter de leurs tâches, à les rencontrer par le biais de visites individuelles. Nous verrons une augmentation des sans-abri dans les villes qui n'adoptent pas ces lois, et cela va perturber la capacité à fournir les services dont ils ont besoin. Par ailleurs, je pense qu'une grande partie d'entre eux s'installera dans des campements, dans des bois ou dans des endroits où ils disparaîtront au milieu d'une population d'indésirables. C'est une chose très tragique. Un certain nombre de sans-abri confrontés à des problèmes de santé mentale nécessitant un suivi. Il peut y avoir des problèmes de dépendance de drogue aussi qu'ils essayent de surmonter et pour cela ils doivent pouvoir accéder au type de service de soutien qu'avec d'autres nous fournissons. Et s'ils devaient se rendre dans un endroit où justement ils disparaîtraient, il n'aurait plus personne pour les aider à briser ce cercle de pauvreté. Enfin, si la Cour suprême validait les ordonnances de Grants Pass, les sans-abri seraient arrêtés, se seraient inscrits à leur casier judiciaire et travailler avec eux dans l'optique de les faire emménager plus tard deviendrait bien plus difficile. Ce serait un autre obstacle les empêchant de devenir stables et autonomes.
Des propos recueillis par Marie Duhamel et à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Première victoire législative pour le président argentin Javier Milei. Après 6 mois d'aller et venue parlementaire, la loi de dérégulation de l'économie proposée par l'exécutif a finalement été approuvée. Réforme du travail, privatisation, baisse de l'impôt sur les grandes fortunes. Le vote de ces mesures à 147 voix contre 107 a provoqué l'euphorie du gouvernement et l'inquiétude chez les Argentins. Explication à Buenos Aires de Caroline Vic.
Un événement monumental pour l'histoire. C'est la première déclaration du président Milei après l'approbation de sa première loi. Sans majorité au Congrès, le chemin pour le gouvernement a été long et difficile. Les débats virulents ont duré 6 mois, une centaine d'articles ont été supprimés ou modifiés et Milei est passé d'insulter les députés, de dénigrer le Congrès qu'il avait qualifié de nid de rats, à négocier avec la caste politique, comme il l'appelle. Les grandes entreprises sont les grandes gagnantes avec la baisse des impôts aux grandes fortunes et un régime d'énormes bénéfices pour les entreprises souhaitant investir dans le pays. Les Argentins, eux, sont assez inquiets avec l'extension de l'impôt sur le revenu, une grande réforme du travail, l'élimination des fonds de l'État aux régions et les facultés extraordinaires données au président pour 1 an. Ce qui a créé la surprise, c'est que beaucoup de députés de droite, pourtant pas très convaincus, ont voté en faveur du texte afin, selon eux, de laisser gouverner le président et de lui laisser la chance de prouver les bienfaits de ses réformes. Milei a d'ores et déjà annoncé la deuxième phase de son plan économique avec une restructuration de l'État et l'annonce notamment de 70 000 licenciements, l'élimination de l'impôt à l'importation et la dollarisation de l'économie. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
Guerre en Ukraine, 4 civils ont perdu la vie aujourd'hui dans la ville de New York, dans l'est du pays, à cause d'un bombardement russe. Plus au nord, près de Kharkiv, où les troupes russes avaient lancé une vaste offensive en mai, une femme a été tuée dans un village frontalier. Mais c'est de Crimée que viennent les inquiétudes les plus graves. L'armée ukrainienne avait bombardé le week-end dernier ce territoire. Moscou s'en était pris à Washington, coupable à ses yeux d'avoir permis cette frappe. Le gouvernement russe a de nouveau aujourd'hui réitéré ses critiques envers les États-Unis, coupable cette fois d'avoir fait survoler la mer Noire par des drones, ce qui, pour la défense russe, augmente le risque de confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Le ministère russe de la Défense a fait savoir ce matin qu'il préparait une réplique au vol de drones américains en mer Noire. Il n'a cependant donné aucune indication sur les mesures que Moscou pourrait mettre en place. Pour la Russie, ces vols multiplient la probabilité d'incidents dans l'espace aérien avec les avions des forces russes, ce qui augmente le risque d'une confrontation directe avec l'Alliance Atlantique. Selon la Défense russe, ces drones américains servent à la reconnaissance et à la désignation des cibles pour les armements fournis aux forces armées ukrainiennes par les Occidentaux. Selon le Kremlin, les frappes de missiles à longue portée Atakams, par exemple, ne peuvent pas être menées par les seuls Ukrainiens. C'est donc ces drones qui fournissent les renseignements nécessaires aux spécialistes occidentaux pour qu'ils puissent procéder à ces frappes. Le 24 juin, Moscou avait menacé les États-Unis de représailles, les accusant de tuer des enfants russes au lendemain d'une frappe ukrainienne en Crimée. Début juin, Vladimir Poutine avait menacé de livrer des armes équivalentes à des ennemis des Occidentaux pour qu'ils frappent leurs intérêts dans d'autres régions du monde. Jean-Didier Revoin, Moscou. Pour Radio Vatican.
C'est fort de son expérience dans la région au Bélarus que Mgr Ante Josic, nonce apostolique à Minsk depuis mai 2020, a été nommé par le pape François pour le représenter cette fois en Arménie et en Géorgie, deux pays confrontés à des crises politiques et diplomatiques graves et où la Russie est partie prenante d'une manière ou d'une autre. Élections ce week-end en Mauritanie. 2 millions de personnes sont appelées à choisir leur prochain président. Mohamed El Ghazouani, au pouvoir depuis 2019, reste le grand favori de ce scrutin. Face à lui, 6 candidats de l'opposition qui mettent en garde contre la fraude. La commission électorale tente-t-elle de rassurer quant à la transparence du scrutin dans ce pays stable du Sahel. Mais il y a peu d'illusions à se faire, selon Hichem Ben Yaïch, spécialiste de l'Afrique.
Vous savez, dans toutes les élections africaines, il y a ce problème toujours. Évidemment, certains vont tricher. Ce territoire de 1 million de kilomètres carrés, il est considérable. Et je pense que les observateurs ne seront pas suffisants pour pouvoir tout contrôler. Donc, il faut limiter la triche. C'est bon pour la démocratie et pour l'image des pays. Une élection sans crédibilité, c'est un coup d'épée dans l'eau. Le monde a changé en 2024, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas raisonner sur un modèle totalement dépassé. Razouani veut avoir les mains libres, il ne veut pas de concurrents. Il faut que le jeu soit ouvert et c'est très important dans un pays qui a des frustrations énormes. Le multipartisme, malheureusement, a pris une coloration ethnique. Et c'est ça le malheur de ce jeu. Parce que ça fausse tout. Razouani est décidé de gagner cette élection pour un deuxième mandat et on va voir.
Des propos recueillis par Myriam Sandouno. Fin aujourd'hui de l'assemblée plénière de la conférence épiscopale de RDC, la CENCO. On connaît le nom de son nouveau président, Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi. Il succède à Mgr Marcel Outembi, l'archevêque de Kisangani. Le pape François ira-t-il à Nicée en 2025 pour les 1700 ans du concile écuménique? Le Saint-Père le souhaite, répondant ainsi à l'invitation que lui a portée la délégation du patriarcat écuménique de Constantinople au nom de Bartholomée Ier, délégation présente comme chaque année au Vatican pour la solennité des saints Pierre et Paul qui aura lieu demain. Vous pourrez d'ailleurs suivre en direct commenté sur nos ondes la messe et la remise du pallium aux nouveaux archevêques métropolitains. Enfin, avant de se quitter, plusieurs informations utiles. Tout d'abord, la salle de presse du Saint-Siège a confirmé que, comme chaque année, les audiences l'audience générale du Saint-Père sont suspendues pendant tout le mois de juillet. Elles reprendront le 7 août. Et puis la rédaction francophone de Radio Vatican se met elle aussi au vert. Dès demain, c'est la grille d'été qui prévaudra. Autrement dit, les journaux de 18h sont suspendus en juillet et en août, ainsi que notre magazine hebdomadaire Vox Mundi. Rendez-vous donc le 2 septembre à 18h. D'ici là, on a rendez-vous lundi matin à 8h30. Excellente soirée, excellent week-end à toutes et à tous.